France Inter.
Dans le cœur entassé des plumes du velours et de la mana acier. Un peu de j'aurais dû et des tonnes de regrets. Quelques j'aurais pu, mais le train est passé. Lassé des cons, ma foi s'est cassée. Lis sur ma face, le regard s'est glacé. Ivre de vie, je veux pas trépasser. Pas avant que l'amour ne vienne m'embrasser. Trop d'idées noires, j'ai le cœur encrassé. Mais j'ai l'âme d'un tigre, pas d'un bassé. Je défoncerai les portes qui t'ont cadenassé. J'irai chercher bonheur là où il a tracé. Crime sur crime, bim bim bim. On se piétine pour atteindre la cime. Voilà le message qu'ils veulent nous lancer. Au fond d'une cage, ils veulent nous placer. Dis-moi que le pire, on l'a dépassé. Dis-moi que sourire, c'est pas déplacé. Ce monde part en couille, je peux pas l'effacer. Pose-moi cet iPhone et viens m'enlacer.
Ce soir, nous sommes avec le groupe IAM, Akhenaton et Shuriken à l'occasion de leur nouvel album Yasuke. Mais tout de suite, comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec leur chanson Né sous la même étoile.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir, je peux rien faire.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de doigts, de crachat, cha-cha, de francs. Compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte, pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croissent poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
Rap, 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 rap.
vie de rêve.
Est-ce que vous êtes des gentils garçons?
On est des gentils garçons. Je pense que dans le fond, oui. Pour moi, à un moment donné, la gentillesse, c'est savoir dépasser soi-même pour mettre des fois les autres à la place dans les intentions. Et je pense, alors je parle pour mes amis du groupe, mes frères quasiment, parce qu'on a passé une grande partie de notre vie ensemble. Ils sont de vraies personnes gentilles.
Est-ce que vous êtes né sous une bonne étoile?
Je pense qu'au final, oui, quelque part.
Au final, départ, alors.
Non, parce qu'on n'est pas designé ni préparé non plus pour avoir la carrière qu'on a et pour arriver là, être en face de vous et faire des interviews de cette façon.
Et puis, je pense que on est né sous une bonne étoile pour connaître, pareil, les familles de tous les membres du groupe. On est tous nés avec beaucoup d'amour dans nos familles. De ce point de vue-là, je pense qu'on arrive à traverser beaucoup de choses. Quand on est aimé et qu'on aime en retour, ça évite beaucoup de problèmes. Moi, je sais que dès que j'ai failli faire beaucoup de conneries dans ma vie, à un moment donné, j'avais l'image de ma mère et l'image de mon père qui venaient dans ma tête comme ça. Et au dernier moment, c'était frein à main. Et l'éducation, à travers l'amour, c'est quelque chose qui est très important.
Donc, il vous faisait peur, alors?
La trouille aussi.
J'avais peur de les décevoir.
La trouille aussi.
La trouille, oui. La trouille.
De les décevoir, de l'engueulade et de les décevoir.
Mon père était sévère.
Ah, ça rigolait pas du tout.
Mais on n'avait surtout pas envie de les décevoir, qu'ils se disent voilà, je suis déçu par mon fils parce qu'il a fait ça. On essayait d'être à la hauteur de.
Ben, c'était déjà dans notre éducation de ne pas vouloir décevoir nos parents. Je pense que c'est une question d'éducation aussi au départ.
La seule fois où j'ai lu la déception dans le regard de mon père, c'est que j'étais plutôt doué pour les études. J'étais plutôt bon en études, mais je n'avais rien à foutre. Mais vraiment.
Ben pourquoi?
Parce que ça me parlait pas, ça c'était pas un format qui me convenait, et donc j'avais eu parmi les meilleures notes de la région en sciences nat, donc la fac de médecine m'avait proposé de faire la première année en 6 mois, donc j'étais parti d'un programme d'élèves, mais moi j'avais surtout pas envie de faire médecine, si je voulais tout faire, c'est beaucoup trop long pour moi, donc je me suis dirigé après vers géologie, je faisais un peu de nutrition, des trucs comme ça, en fac de sciences, et je suis pas allé vraiment très loin. Mais mon père était super fier que je fasse partie de ce programme, et le jour où j'ai dit, je vais arrêter, je vais ni faire médecine, mais je vais arrêter la fac aussi, c'est la seule fois où vraiment j'ai lu de la déception dans son visage.
Et vous?
Je pense que c'est dans le même genre de cas. Moi, c'était.
Quand tu as commencé à faire du rap.
Quand j'ai commencé à faire du rap, ouais. J'avoue, oui, parce que c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de danse, beaucoup de battle, mais je travaillais en même temps, donc.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je suis chaudronnier de formation. Donc, je travaillais en même temps, et je dansais, je faisais
beaucoup. Vous avez commencé à quel âge à travailler?
19, hein, au sortir de l'armée. Je pense que pour lui, c'était quelque chose de tracé. J'avais mon taf, j'allais évoluer comme ça. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est d'une ancienne génération, donc on recherche toujours la stabilité, on n'est pas trop dans la prise de risque, et que moi j'arrive en lui disant, écoute, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai un salaire, je pourrais être assez droit, mais j'ai pas envie, je veux faire de la musique. Je pense que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est effondré dans son regard. Mais avec le temps et la persévérance, je pense que parce qu'au départ, il s'est dit, il veut rien foutre, c'est surtout ça. Mais quand il a compris que c'était vraiment quelque chose de sérieux et qu'on était prêt à faire et qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour ça, son regard a changé après.
Faire de la musique, c'était pas aller droit alors?
Ah non, c'était pas un vrai métier.
Ce sont tous des amoureux de la musique, c'est-à-dire que ses parents, mes parents, moi j'ai grandi à la maison avec des disques de partout, avec le frère de ma mère qui avait un groupe de soul. J'ai grandi dans la musique, sauf que faire la musique, attention, on est tous issus de familles populaires, immigrées. Et pour qui la réussite, elle est dans le travail stable et dans l'emploi qui est pas précaire.
Dans le CDI.
Dans le CDI de la fonction publique. Mais c'est ça, c'est la vision. La vision, c'est ça. Au bout d'un moment, moi, je viens d'une famille, il y a que des dockers, des pêcheurs. C'est la réussite en France, c'est rentrer dans une administration et avoir un poste élevé et culturellement. C'était très dur pour eux. Ma mère avait une fibre artistique et ma mère a mieux lu que ce que je voulais faire. Ma mère peignait, peint toujours. Elle était passionnée de science, elle était passionnée de musique aussi, puisque moi j'ai grandi avec sa discothèque. Et que quand on a commencé à faire du rap, ben on faisait des samples et on prenait les disques des parents. Donc lui venait avec Stevie Wonder sous le bras. Moi j'arrivais avec Bohannon, il y avait Crosby, Stills, Nash & Young. Et il y avait la chanson française aussi à la maison, les paroles de la chanson française qui m'ont influencé.
Et
tout ce combo. Ma mère, c'était proche du Parti communiste. Jean Ferrat, mais ça allait. Il y avait Léo Ferré, Brel, Nino Ferrer. Et après, sur les internationaux, c'était Joan Baez. Voilà, à la maison, c'était l'artiste.
Et vous, lui, vous chantiez pareil.
Ah, moi, je chantais pas, non. J'étais pas dans le chant. Le rap m'a permis d'avoir accès à la musique. Pourquoi il y a autant de rap aujourd'hui? Je pense que c'est la même explication que pour nous. Il y a 35 ans de ça.
Ça veut dire quoi, rapper? Commencer à rapper?
Rapper, c'est écrire des textes et les scander en rythme. Du moment où ça chante, c'est plus du rap.
Moi, j'étais vous souvenez, à 16 ans, ce que vous rappiez?
Bien sûr. C'était des vannes sur les copains. Mais
allez-y.
Ah non, je ne peux pas faire les textes, je ne m'en rappelle même plus. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que...
Ah, parce que vous ne consignez pas, vous ne preniez pas de carnet de notes pour essayer de vous souvenir de ce que vous faisiez.
Les premiers textes que je dois avoir, ça doit être à 96-88.
À ce niveau-là, on a commencé à se structurer plus tard. Cahier, stylo...
J'ai eu la chance de sortir mon premier disque en 88 à New York. Hein, c'était là le premier disque que j'ai sorti.
Non, mais donc, la première fois à 16 ans,
première
c'était
fois,
où
84, c'était, on avait un match de foot, en fait. Moi, j'étais dans une équipe où il y avait un peu des gars comme lui qui étaient des super danseurs. Je suis pas doué pour ça. Et dans le hip-hop, c'est pas une culture de gens qui regardent. Il faut faire quelque chose dans le hip-hop. Où on graffe, où on rappe, où on est DJ, où on est beatmaker. Et j'ai dit, mais je vais rapper dans les soirées hip-hop. Il n'y a jamais de MC qui monte sur scène en France et qui anime les soirées, qui fait des textes. Je vais le faire. Et j'ai commencé mon premier texte. Il y avait un match de foot et j'avais écrit un morceau. J'avais pris un instrumental de rap américain. Et j'avais rappé sur tous mes potes. L'avantage du rap, c'est que Curtis Blow, quand il a sorti un de ses premiers vinyles, il y avait la face A du titre et la face B, elle s'appelait Do It Yourself. Et ça explique bien l'état d'esprit de cette culture-là. C'est fais-le toi-même. Prends l'instru, fais ton texte et fais ce que je fais moi sur la face A. C'est magnifique. C'est une culture qui est énormément dans l'échange et dans le partage.
Mais dis des trucs, encore faut-il avoir des choses à dire.
Beaucoup de MC de l'époque avaient des choses à dire. Et même si la musique rap était énormément dans l'amusement, l'entertainment, c'était la voix des quartiers, c'était la voix de ce que les gens vivaient.
Racontait quand même ce qui se passait là-bas, qui racontait la vie des gens. C'est pour ça que ça a été autant suivi et que c'est une musique qui est devenue si populaire.
C'était pour alerter ou c'était pour plaire?
Il y a les deux. À partir du moment où tu proposes quelque chose que tu crées, tu as envie de plaire. Les artistes sont des gens qui ont envie de plaire. On a envie de plaire. On a envie de que ça fasse briller les yeux des gens ou réfléchir les gens. On a envie que ça provoque quelque chose.
En fait, il y a un truc qui est mal compris en France, c'est la partie ego trip du rap qui vient vraiment d'une tradition millénaire ou africaine ou moyenne-orientale ou européenne. Ouais, où il y a les joutes verbales.
L'ego trip, c'est pas
nécessairement les rappeurs qui fantasment sur leur propre ego. C'est qu'il y a une partie sportive dans le rap où on veut être meilleur. Donc, il faut sortir la meilleure vanne. À l'origine, avant le rap, il y a par exemple les Dirty Dozens aux États-Unis. C'est des recueils de vannes en rime. On essaie d'humilier les autres, ou le country preaching.
C'est des joutes orales comme il y en a depuis le Moyen Âge.
Exactement. Ça existait déjà. Il n'y avait pas le support musical, c'est tout. Mais le but était le même. Prendre le dessus sur l'autre verbalement. D'une façon ou d'une autre. Avec humour, avec un peu plus agressif, avec.
Et j'ai eu la chance de découvrir des textes du 12e siècle à Bagdad. Où il y avait les personnes qui écrivaient des textes en rime en vannant leurs concurrents. 12 pieds, à peu près comme nous. Et le nom du compositeur de la musique qui l'accompagnait, qui était cité dans le poème. Je veux dire, c'est du rap avant l'heure. Nous, on est héritiers d'une tradition qui est vieille comme l'humanité. C'est plus du storytelling, le fait de raconter des histoires, que du chant. Mais c'est notre tradition qui est aussi vieille que le chant.
Et pourquoi vous êtes appelé Akhenaton ?
Akhenaton, c'est parce que c'est un pharaon qui a révolutionné pas mal de choses en Égypte. C'est dans une lignée mystique, c'est-à-dire que quand on parle taoïsme ou bouddhisme, je ressens la même filiation quand on parle, quand je parle avec mes copains qui sont catholiques ou qui sont juifs, ou y compris chez des athées mystiques, je retrouve la même parce qu'il y a la perception de la place de l'homme dans l'univers. Et si l'homme se redimensionnait à la dimension de l'univers, ben on aurait beaucoup moins de sujets de merde qu'on évoquerait.
Oui, déjà, il l'ouvrirait moins, déjà, je pense. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout là-dedans, ce sont surtout ces courants-là, c'est surtout la spiritualité commune qu'il y a dans, toutes ces, dans tous ces courants religieux, entre guillemets, puisque ce ne sont pas tous.
Ouais, je croyais que c'était la révolte, nous, moi, au départ.
Il y a aussi de ça, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la spiritualité, parce qu'on retrouve, c'est ce que disait Chill, il disait, c'est exactement, on retrouve, sans le savoir, on retrouve plein de choses qui sont vachement communes, ce qui fait que c'est encore des points sur lesquels on se retrouve, au-delà de la musique, dans nos discussions, dans nos...
La révolte, c'est une partie.
La révolte, il y a une partie, parce qu'on est comme ça aussi.
La passion, ouais. La spiritualité, la révolte, la rigolade, parce que vivre avec Ayam tous les jours... C'est un spectacle comique, il faut
pourquoi
le dire, parce qu'on se vanne oui, toute vrai. La journée, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, même au-delà de 50 ans, une tournée avec Ayam, c'est que du rire. On devient
Gaga, vous allez vous vanner.
Ouais, c'est un peu des gros bêtas, mais quand même,
non-stop.
Mais passionné. Et quand même, comme on dit toujours, on se prend pas au sérieux, nous, c'est tout. Mais par contre, ce qu'on fait, on le prend très au sérieux.
Ouais. Hier soir, par exemple, on a fait deux concerts à l'Opéra de Monaco avec l'orchestre de Monaco. C'est dans un endroit qu'on n'aurait jamais pu imaginer investir quand on était jeune, et on s'aperçoit qu'avec la musique, il y a des choses incroyables qui se passent, des gens d'univers différents qui se rencontrent. Et nous, on adore ça. Avec Ayam, on a toujours aimé, à travers notre musique même, on a très vite eu des influences de musique africaine, de musique asiatique, de musique moyen-orientale dans nos morceaux. On a aimé toujours faire des combos.
De rencontrer une autre musique ou une autre personne, on le fait toujours à travers la musique. On a rencontré énormément de musiciens, on a découvert beaucoup de choses.
Mais à la tournée en Chine, par exemple, on fait la tournée en Chine, on prend des musiciens traditionnels chinois... sur scène avec nous, un héros, une mandole et un chanteur throat singer. C'est un chanteur, je ne sais pas comment dire en français, mais je ne fais pas mon Jean-Claude Van Damme, mais je ne sais pas. De Mongolie, throat singer. Ouais, la gorge, oui.
Donc on peut dire qu'il y a un côté de musique traditionnelle à l'intérieur de votre groupe.
Par exemple, un autre exemple, quand on joue en Égypte au pied des pyramides, on commence...
À quelle heure? Au lever du matin,
2008, le 14 mars, au coucher du soleil. On devait s'arrêter avant la nuit, parce qu'il y avait le son et la lumière qui démarraient. On n'avait pas les moyens de tout éclairer, d'éclairer le décor. C'était hors de prix pour nous.
Donc on a mis qu'un gros jour.
Le soleil. Et par contre, on a commencé le concert avec des musiciens traditionnels, avec des percussions et des vents et des cordes. C'était un ensemble de percussions. On a commencé à rapper et on a terminé le concert avec des musiciens égyptiens. Comme quoi, le rap, ça peut être fait sur de la musique traditionnelle égyptienne.
Quelle est la part de la poésie à l'intérieur de votre travail ?
Énorme. La part de poésie est énorme.
Énorme.
Parce que...
Vous en lisez beaucoup pour pouvoir en écrire ?
On en lit, par exemple, des poètes comme Pablo Neruda. Il y a eu une influence, sur l'écriture. Oui. On est plus dans le roman et dans les livres historiques et dans la poésie des choses. C'est là où la spiritualité elle intervient. C'est-à-dire que, par exemple, Joe a influencé énormément le groupe sur la culture extrême orientale. Et la manière de regarder les choses, une fois, quand j'ai écrit un album solo, et c'est sous l'influence culturelle de Jo, j'ai lu des romans japonais, et il y avait un samouraï qui s'appelait Musashi Miyamoto, qui avait tué énormément de gens dans sa vie. Et un matin, il s'accoude sur le pont de Gojo, il regarde le soleil se lever, il voit les oiseaux passer, et il dit... Je suis vivant, je suis en vie. Et j'ai trouvé ça d'une poésie incroyable, quelqu'un qui était challengé par la mort tous les jours, obsédé par son ego et son nom, et parce que c'est ça les samouraïs, il fallait se faire un nom dans le Japon, il fallait être craint, redouté, et c'est en voyant le soleil, les oiseaux, les arbres s'agiter et la rivière défiler sous ses pieds, qu'il a dit « je suis en vie ». Et il a réalisé qu'est-ce que c'est que d'être en vie. Voilà, ce genre de poésie-là, moi, ce sont des choses qui me... qui me parle, et je pense que j'ai aussi, là, quand il a écrit des textes comme Le Dernier Empereur, ou même des morceaux plus personnels comme les miens, quand on fait de l'introspection, on fait une part de poésie.
Après, ça varie, pareil, on échange beaucoup, hein, on se sert, on fait des références comme ça, des petits, mais c'est omniprésent, mais même dans notre, après, forcément, dans notre façon
vous écrivez,
de tourner.
Écrivez vos pensées, vous les échangez et vous...
Oui, après ça dépend. On échange beaucoup avant et pendant l'écriture, forcément. Mais après, dans la poésie, elle intervient surtout dans la tournure, dans comment on va dire les choses.
Dans la scansion des mots.
Déjà aussi, et en plus comment on a envie que les gens reçoivent ces mots. La langue française, elle est suffisamment.
Par exemple,
achalandée pour dire plein de choses de façon différente, ou de choisir l'agressivité ou la poésie. On peut dire des choses. On a eu dit des choses très dures, mais de façon très poétique.
Par exemple.
La même étoile. La même étoile, c'est les questions dures que tu te poses quand tu es enfant, mais on les a pas formulées comme on se les posait à l'époque. On les a formulées de façon plus poétique.
Avez-vous gardé une part d'enfance tous les deux?
La part d'enfant.
Je pense parfois un peu trop. Je pense que nos femmes nous le reprochent un peu trop des fois.
Ah, c'est les mecs surtout, c'est vraiment. Et les mecs ensemble, alors c'est encore plus bébête. Je pense qu'il y a aussi une part d'enfance qui est importante quand on rêve. Et la part du rêve, et on a écrit un morceau sur l'album précédent qui s'appelait Grand rêve, grande boîte. Mmh. Et je pense que justement en France, dans notre pays, on a annulé, on a tué le rêve pendant longtemps à force de dire aux gens, il faut vous ancrer dans le concret, c'est ce qui est important, le rêve, c'est quelque chose qui ne compte pas. Je pense que le côté enfantin rêveur des Américains, même s'ils ont beaucoup d'autres défauts, il les a fait aller loin dans des domaines créatifs, musicaux et artistiques parce qu'ils rêvent et parce que ce sont des enfants. Donc sur d'autres aspects, ça peut être dérangeant, mais sur l'aspect de la création, le rêve, c'est pas un gros mot aux États-Unis.
Non.
Donc ils ont d'autres défauts, attention.
Vous avez dit tout à l'heure que être vivant, c'était quelque chose qui vous importait le plus au monde. Ça veut dire quoi?
Je pense que c'est important d'avoir une vie et d'accumuler des souvenirs. On appelle ça. On peut tout perdre. On peut perdre sa voiture, on peut perdre sa maison, mais la boutique de souvenirs qu'il y a dans la tête, on peut pas la perdre. Être vivant, c'est vivre intensément chaque journée et prendre conscience que chaque journée qu'on vit était, et c'est ce qu'on dit dans grand rêve, grande boîte, chaque jour est une grande date. On met les grands rêves dans les grandes boîtes. Et parce que chaque jour est un jour important, il faut avoir une vie pleine. En ayant 50 ans, on est beaucoup plus confronté à la mort que quand on était petit, même si on a grandi, on a été confronté très tôt à des morts violentes.
Par exemple,
moi, j'ai cité un exemple l'autre jour. J'ai un morceau que je ne peux pas écouter, qui est le morceau d'Al Green qui s'appelle « I'm still in love with you ». Parce que j'ai les souvenirs d'être à New York et d'être avec plein d'amis, pas mal d'amis dans la pièce, et mon ami qui me disait « Ah, tu devrais sampler ce morceau, faire un morceau ». Je suis le seul être vivant de tous les gens qui étaient dans la pièce ce jour-là.
Ils sont morts de quoi, vos amis ?
Tous morts violentes, tous morts par arme à feu, voilà. Donc ça, c'est... Ça, à mon avis, c'est des choses auxquelles on s'attend quand on est jeune et dans qu'on vit. Par contre, ce à quoi on ne s'attend pas, c'est aujourd'hui avoir des jeunes de notre génération, de la génération de nos parents qui partent par la maladie. Et on se dit, à ce moment-là, l'important, c'est ce qui reste. Et l'important, c'est de faire que demain soit mieux qu'aujourd'hui et qui était déjà mieux qu'hier.
Et surtout, apprécier le fait que chaque jour, on est vivant, on est en vie.
Vous avez été les témoins, puis ensuite vous êtes devenus les acteurs par votre groupe de musique de la violence qui n'a cessé d'augmenter dans la ville d'où vous êtes originaire, Marseille.
Ça, on n'est pas d'accord avec ça.
Ah bon ?
Elle est différente.
Elle est différente. La violence est différente. Nous, on a connu des années dans les années 80 et 70 qui étaient extrêmement plus violentes que les années qu'on vit actuellement. Avec des pics de morts par arme à feu dans les 85-86, qui étaient les années où on commençait vraiment à tourner, qui étaient les années les pires à Marseille. La violence, elle a une autre forme, c'est la violence des très jeunes, surtout qui est différente. C'est, je pense, malheureusement culturel, où on pense que par le bras de fer et par la force, on va arriver à imposer sa loi, ses idées, sa vision aux autres. Et je trouve que les grands de notre monde et les grands de notre pays ne donnent pas un très bon exemple.
Non.
Et agissent de manière violente. Quand il y a un président, à un moment donné, qui te dit, par exemple, pour en citer un président passé qui s'accroche avec un pêcheur sur un parking et qui descend, on va voir un peu comme s'il allait se battre sur un parking avec un pêcheur, je trouve que c'est un exemple lamentable pour
le président.
C'était Sarkozy qui avait dit descend à un pêcheur comme s'il allait se battre sur un parking avec lui, je trouve ça. Moi j'avais regardé ces images, même nous qui avons grandi dans un milieu plutôt violent, j'aurais jamais réagi comme ça. Mais bon, après, je pense que les hommes, les femmes politiques et les gens des grands médias doivent réaliser ce qu'ils insufflent aux gens. S'ils leur insufflent de la peur pour vendre de l'espace publicitaire, vous aurez la société qui a peur et qui réagit avec la peur au ventre, qui a une réaction de société apeurée. Et je trouve que la France est un des pays occidentaux qui a le plus peur. Parce qu'on n'était pas rodé à avoir de l'information en boucle. Moi, j'allais aux États-Unis dans les années 80. Ils regardaient 50 minutes d'info avec que des morts et tout ça. Mon oncle, il éteignait. Il allait tondre la pelouse. Il n'en avait rien à foutre. Sauf que les Français, à partir de septembre 2001, et l'info en boucle qui s'installe, et Internet qui arrive, et la télé-réalité en même temps, dans la tête, ça fait comme un truc détonnant. Et on est devenu un peuple affolé, apeuré. Je pense qu'il y a des choses à reconstruire, des liens à reconstruire. Il faut réunir les Français, mais pas dans le bras de fer.
Il faut définir les priorités aussi.
Exactement. Pas dans le bras de fer. Pas dans la violence, dans la déconstruction.
Estimez-vous que vous avez une mission en tant qu'artiste ?
J'ai une mission en tant que père.
J'allais dire, on a des missions en tant que père de famille, et sachant qu'on est plus proche de la fin que de l'arrivée, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ?
Attendez, vous êtes père, Est-ce que vous êtes les pères ou les grands-pères du rap?
Je pense qu'on est toujours acteurs, donc c'est difficile de nous définir. Ouais. Comme on dit toujours, souvent on nous dit, ouais, les légendes, ouais, peut-être à l'ancienneté. Mais après, vous nous appellerez légendes quand on sera mort, là, pour
qu'est-ce
l'instant.
Qu'est-ce qu'ils feront des compilations de chanteurs?
Là, pour l'instant, on est MC.
Pour l'instant, on est sur scène, on fait des 2 heures de spectacle, on tourne partout dans le monde. On se met pas ni dans l'objectif d'avoir une responsabilité, ni d'avoir une mission. Je pense que la mission, là, envers nous-mêmes. La première mission qu'on a fait, spectacle de qualité.
Les personnes qui vous écoutent et qui...
Oui,
mais parce qu'on donne des avis, on a donné des avis, des opinions, oui, mais jamais des leçons.
Vous avez représenté toute une partie des Français. Et vous durez. Votre succès continue. C'est assez rare quand même dans le monde.
Mais la mission, c'est l'exigence.
De la musique française, de voir, ça fait quoi, 35 ans que vous existez?
L'exigence.
Un peu plus même.
L'exigence.
Bah, c'est rare.
Oui, c'est très rare. Mais je sais pas.
Vous vieillissez pas mal d'ailleurs.
Bah, merci, ça va, merci.
On fait du sport.
Merci, on s'entretient.
You know what? This is James Brown. I'm such a lover of people because people do so much for me. I'm a lover of all humanity, all mankind. And I feel that he has been successful should look out for his fellow man, his brother. I feel that's my role, that's my job. I know when I was a kid, they said I was gonna be a preacher. Hey, maybe I am, but to me, I feel like I'm a teacher somewhat, because I've been able to experience things that most poor, a lot of people have never been able to, even the rich. So I'll start by preaching right here. Because I want to preach to you one more time about heroin. I talked once before, now I want to preach. I want to start by saying, I heard heroin talking one more time. It said, from where I came, nobody knows. I come from a land where the poppy seed grows. A whole nation gathered to plot my destruction. Because I'm a breed of crime and wholesale corruption. You say, I'm pure and then I'm dilutable. And once I'm in your blood, I'll make it but suitable. And I heard an old lady say, sing it on, son. She said, sing it on, son. She said, I lost my son. They're gone on away, so sing it on so you might save a life. I said, madam, look at here. I say, on a record and make all men that dare to use it will wallow in sin, driven then to commit a world of crime, captive their will and destroy their mind, to chase the wise and destroy the meek, misuse the fools and made the strong men weak. I know. Wait a minute. Look at here. They took gold from the rich and made them poor. Take a young foolish maiden and made her a whore. Look at that. And then I heard, by that time I heard a man over in the corner. He was sitting down with his head hanging low. I noticed him when I first walked in. And he was addicted to drugs, so he said, I feel it. So, brother, I want to get up and testify. So everybody started screaming and hollering and crying. I saw little tears coming from my eye, because I know I felt it. And this brother got up and said, let me have it. So I want to tell you everything. Talk to a man that knows. He said, some will sell me and some will buy for a state of friction and they cost high. But regardless of the position, reason of use, you control my addiction, I give nothing but abuse. He said, let me tell you about heroin, with a full cause of torment, for it's pleasure than pain. It'll take all your money and poison your brain. Lord, I start to sing and I said, The place starts to kind of rocking a little bit. I heard somebody pat their foot and say, sing on, brother. I started humming a little bit in the background. And then I heard that brother say, wait a minute. He said, beware the sharp needle, brother. It'll make you sick, annoying, anguish, and won't let you kick. It'll make you hustle, steal, borrow, and beg. I'm still talking about that bad thing, King Aaron. When you want to look for a vein in your arm or your leg. Felt so bad I didn't know what to do. He said, more precious than diamonds, more treasure than gold, more potent than whiskey, more deadly than wine. It'll just give you discomfort and no peace of mind.
Qui écrit?
Si on fait partie de la culture hip-hop et qu'on fait du rap, on écrit ses parties. C'est une...
Ça vous appartient en propre.
Exactement.
C'est comme l'émanation de son corps.
Exactement.
C'est très personnel. Dans le rap, ça a toujours été comme ça. En général, il faut écrire ce que tu dis parce que ça doit être personnel.
D'ailleurs, on charrie un peu dans un texte dans Montessando, on dit c'est quoi ce rap avec des ghostwriters. Le ghostwriting, c'est quelque chose qui fait partie de la variété.
Pour nous, c'est extraterrestre ça pour le rap.
On peut le faire du ghostwriting pour de la chanson, ça ne dérange pas. Mais dans le rap, c'est un art.
C'est comme de la poésie au fond.
Ouais, c'est un art personnel. Pour moi, voilà, il faut embrasser le texte et il faut s'accaparer les idées. Je pourrais jamais chanter avec l'intensité ces textes. Et il ne pourra pas faire la même chose.
Oui, mais vous chantez ensemble.
Oui,
ensemble, oui.
Oui, oui, on fait
comme un seul cœur, dans
voilà.
Les deux sens du terme.
Oui.
Et
bien
comment
sûr.
Il s'est construit cet ensemble? C'est quand même impressionnant de vous voir tous les deux, tellement proches, tellement différents, tellement unis. Elle date de quand cette amitié et comment elle perdure? Elle a l'air si forte.
Elle est forte, elle date de... Ben, du tout
milieu des années 80.
Début des années 80, où on était tous les deux déjà, on embrassait la culture hip-hop à des postes différents, puisque lui a commencé directement par le rap.
Et lui, c'était un super danseur.
Et moi, je commençais par la danse. Et puis après, ben, pareil, on avait les mêmes réflexes à des lieux diamétralement opposés, puisque moi j'étais plus en Marseille, et on écoutait les mêmes radios tard le soir avec le doigt sur la cassette en espérant que le gars il va pas parler trop pendant le morceau pour qu'on puisse lâcher la touche, tu vois. Et on s'est rencontrés, ben moi je travaillais déjà comme je l'ai dit auparavant, et on s'est rencontrés dans le métro où je travaillais à l'époque, pas dans le métro hein, je travaillais pas pour le métro, mais je faisais quelque chose dans le métro hein, en termes de chaudonnerie. Je blindais les portes. J'avais déjà des casseurs à l'époque.
Il y en avait beaucoup à l'époque.
Déjà à l'époque, je blindais les portes déjà. Et on s'est rencontrés là, on se connaissait déjà de vue parce que le noyau hip-hop à l'époque, c'était plutôt un pépin. Donc forcément, tu croises tout le monde, tu connais tout le monde. Et puis voilà, je lui ai dit que moi aussi j'écrivais avec mon frère à l'époque, qui est Faflarage. Et donc, j'ai proposé qu'on se voit pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et ça a accroché immédiatement. Et depuis, jusqu'à maintenant, plus de 35 ans maintenant.
Ben, pour faire la suite, on a quasiment la moitié de nos vies chaque année, voire même les deux tiers de nos vies passées ensemble, tous ensemble, tout le groupe ensemble, on est sur la route.
La réalité... C'est une fratrie.
Ben, et voilà, j'allais dire ça. Si ça dépasse le cadre de l'amitié même. Alors...
Il faut que vos femmes s'entendent entre elles aussi, alors.
Non, mais
c'est... On se voit, nous, en fait, on se voit, on passe beaucoup de temps parce qu'on travaille énormément. On passe, avec la musique, on passe quoi, plus de 6 mois de l'année ensemble.
Et quand on rentre, on break avec nos familles. C'est oui, ça aussi. C'est oui. Que, on se voit tellement. Par contre,
on trouve quand même moyen de se voir pour le sport.
Oui, pour le sport, pour aller voir des matchs, pour faire un resto. On fait des restos de manière un peu informelle de temps en temps. On se regroupe tous et on va tous manger au resto ensemble. Mais, par contre, c'est sûr que comme des frères, on connaît tous nos défauts et nos qualités. Et voilà, il y a des moments où on se dit les trucs, on se dit les choses. Et après, il y a l'amour qui est au-dessus, qui chapeaute le tout. Après, dans le boulot, pareil, il peut y avoir des points de
divergence. Quelle est votre définition de l'amour à chacun d'entre vous ?
Moi, à un moment donné, l'amour, pour moi, c'est savoir s'effacer et mettre les autres à la place.
Ou passer l'autre avant, ouais.
Vous parlez d'une même voix, même si vous avez chacun votre partition.
Oui.
Oui, souvent.
Même pas besoin de vous regarder.
Non. Ça arrive souvent. Même quand on fait les interviews séparément, des fois, on tombe sur les mêmes réponses.
Alors, je voudrais qu'on écoute la voix d'une jeune femme qui nous a beaucoup émus, qui nous a beaucoup ébranlés et qui a beaucoup résonné dans notre mémoire collective. Cette voix, c'est celle de Adèle Haenel quand elle a commencé à parler et à expliquer ce qu'elle avait vécu quand elle était une très jeune fille, une toute petite jeune fille. On l'écoute.
Mais j'ai pris cette décision et je dois dire que... Comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures justement internes au cinéma, à des situations où on pourrait se convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, je n'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein, je veux dire, dans le système judiciaire ou dans les situations, de, par exemple, de violences sexuelles ou de viol, c'est 1 viol sur 10, c'est bien ça sûr. Qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi, des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait? La justice doit se remettre en question, de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire, en fait, on n'est pas là pour... je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elles. Alors, comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elles que je fais ça aujourd'hui, aussi. En grande partie. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est genre, s'il vous plaît, il faut qu'on se regarde tous et qu'on considère que la justice, actuellement, n'est pas représentative de la société. Et ça, c'est un problème.
Si sur on ça, est... on peut devenir beaucoup moins cool, si c'est avéré. On en parle dans nos... Moi, c'est des trucs sur lesquels je suis très rétrograde sur ces choses-là. Donc, des fois,
alors,
vaut
justement...
mieux pas que je m'exprime.
Mais si, il vaut mieux que vous exprimiez, parce qu'on a réalisé en préparant cette émission que vous aviez déjà dénoncé ces violences envers les femmes il y a maintenant plus de 10 ans.
Ah mais il y a plusieurs morceaux, je peux vous les dire. Il y a Fruit de la rage en 2003, et dans le même album Ici ou ailleurs,
oui,
sur les jeunes filles, ça c'est dans l'album Revoir en printemps, il y a des tas de morceaux qui font référence. On est confronté à un univers et dans des quartiers où il y a des gens qui parlent.
Vous l'aviez déjà ressenti dans votre quartier, cette violence-là.
Je pense qu'elle est de partout. Elle est à la fois dans les quartiers populaires, dans les quartiers riches, sauf que dans nos quartiers, les gens parlent au bout d'un moment. On a une vie beaucoup plus communautaire que dans des quartiers bourgeois où les gens sont cloisonnés et ne discutent pas de voisin à voisin. Nous, ça se sait.
Ça se sait.
Ça se sait très vite. Moi, ma vision rétrograde des choses, c'est que les gens comme ça, que ce soit les gens qui tabassent ou les pédophiles ou les violeurs, honnêtement, je vois pas pourquoi on les met à part en prison des autres. C'est tout. C'est ma vision. Je vois pas pourquoi les prisonniers doivent être mis tous ensemble. Après, advienne ce qu'il advienne. Sur ça, je peux avoir une vision très rétrograde sur le sujet.
Moi, les enfants,
je rigole pas sur ça.
Je préfère.
C'est un truc sur lequel
là, pour le coup, je peux devenir très très violent.
Alors, on va parler de Géricault, oui. Le peintre.
Oui.
Manifestement, à un moment donné, vous l'aimez.
Moi aussi, j'ai dit. Oh,
mais on l'aime et on aime son œuvre. Et puis, on a fait une interprétation personnelle parce que en fait, la pochette cache plein de choses à l'intérieur. Alors, c'est un peu ingrat le CD, donc il vaut mieux l'avoir en vinyle. Sur le vinyle, sur la pochette, on voit que le radeau, c'est une sorte de société qui est miniaturisée où des gens qui ne sont pas forcément amis cohabitent. On a le rap warrior, on a des gens qui se font des selfies, qui s'aperçoivent pas qu'ils sont sur un radeau qui est à moitié en train de couler, mais ils ont le wifi sur leur radeau, donc tout va bien. Il y a des gens qui écoutent de la musique, des gens qui se sont libérés de scène, un banquier avec de la monnaie de singe et le personnage qui nous a inspiré l'idée parce qu'il y a un petit gamin de 14 ans qui est mort en Méditerranée l'an dernier avec son bulletin de notes qui était cousu dans la veste et on s'est dit Yasuke, le personnage historique qui est parti en chaîne d'Afrique et qui est devenu samouraï au Japon, et ce personnage là aurait pu avoir le même destin sauf que lui s'est noyé, on voit sur son t-shirt qu'il a son bulletin de notes en fait. Et qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui nous émeuvent particulièrement. Donc le radeau vogue de flots pollués et très tourmentés vers des flots beaucoup plus clairs et beaucoup plus calmes. Donc on est résolument positif. On se dit que là où on est, ça peut pas être plus grave et qu'il va falloir que, même si on se parle pas, qu'on est coincé sur ce radeau avec des gens qu'on n'aime pas.
Même si on se ressemble pas.
Il va falloir le mener dans des flots plus calmes, ensemble.
On y est quand même tous ensemble, il va falloir qu'on trouve un moyen de s'entendre pour aller vers justement quelque chose de plus calme.
Sinon, même comme si sur le radeau de Géricault.
Mais on va pas, il est hors de question qu'on se dévore.
Voilà. Sinon, comme sur le radeau de Géricault, ça vire au cannibalisme. C'est peut-être pas le but de notre radeau.
Et on a notre optimiste, Yasuke, beaucoup plus optimiste comme...
Alors après, on regarde tout avec le filtre de l'histoire, c'est ce qu'on dit souvent. Ce gamin qui a perdu la vie en Méditerranée, il faut faire très attention, nous les Français, on ne regarde pas l'histoire qui tourne comme une roue. Dans 30 ans ou 40 ans, c'est peut-être nous qui escaladons des barbelés en Afrique du Nord. Si l'Afrique décide de remettre la main sur ses matières premières, c'est pour nous les barques.
Moi, j'ai dit
ça. Ça va faire des dégâts.
Êtes-vous engagé dans des associations humanitaires?
On a fait plusieurs trucs avec, on a soutenu plusieurs fois SOS Méditerranée, parce que tout simplement on ne peut pas laisser des gens perdre leur vie en mer, il y a des gens qui fuient des zones de conflit, qui fuient des famines, il y a des... Je suis complètement d'accord qu'il faut apporter des solutions aussi sur le continent africain, parce que sinon on peut pas trouver des solutions uniquement en Europe, c'est une vision...
En même temps, surtout, c'est un peu hypocrite, les causes de cette immigration, ben oui. Pour la moitié, c'est nous qui foutons la merde là-bas.
Bien sûr. Donc le mondialisme, c'est la vision du monde. C'est pas nous dans le monde.
Et les autres.
Et les autres, malheureusement, moi honnêtement, je sais pas comment vous réagiriez, mais moi si autour de moi, il y a des bombardements tous les jours, j'ai mes enfants qui jouent dans des endroits qui sont hyper pollués, où il y a des snipers ou quoi, mais je pars. Bien je pars sur la route avec mes enfants.
Bien sûr qu'on s'en va.
Et tous les Français feraient la même chose. Parce que sa famille, ça donne un courage extraordinaire, mais il faut voir ce que certains ont vécu. Et pour l'infime partie de gens qui sont là et qui sont peut-être des délinquants dans leur pays, on juge un ensemble de personnes comme ça. Ils fuient, c'est des délinquants, ils viennent prendre notre boulot, mais la question, elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là du tout. Elle est un minimum d'humanité et de comprendre pourquoi des gens quittent des pays où il y a des
Pour prendre un tel risque, il faut quand même que ce soit extrême de l'autre côté. Quand même, personne de censé prendre un tel risque de traverser avec ses propres enfants.
Il faudrait expliquer aux gens que le bloc syrien, kurde, irakien, Jordanie, Palestine a été découpé par nous. Nous et les Anglais. Par exemple, en Afrique... Beaucoup de frontières ont été déterminées par nous aussi. fonction des mines, en fonction de ce qui est arrangé. Donc, j'entends bien qu'il ne faut pas chaque fois regarder dans le rétroviseur pour avancer dans le monde, mais il y a un minimum de trucs à solder. Et quand j'ai entendu ces dernières années, oh, il faut arrêter les bienfaits de la colonisation, mais oh, il faut avoir un discours vraiment. Parce que ça aboutit au discours de Dakar, ça. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Ouf. Non, non.
C'est l'inverse.
Henri Guénon n'est pas assez rentré dans le livre d'histoire, où il n'a ouvert qu'une partie. Il aurait dû un peu tout ouvrir. Ça aurait fait peut-être découvrir les pharaons noirs de Méroé, le Négus, l'Empire Mandingue.
Ancienne comme à l'école, je lis la fin.
Alors, on sait que vos concerts sont des moments qui sont de plaisir, mais aussi de réflexion, et que les gens en sortent assez ébranlés en se disant qu'ils aimeraient bien faire quelque chose pour les autres, justement. Mmh. Estimez-vous que votre groupe a une mission, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission ?
Mais si faire quelque chose pour les autres, c'est par exemple avoir plus d'empathie et les aimer, je pense qu'une une mission de parler on va dire le mot aimer est devenu un mot vulgaire. On a un peu ces cucus, oh c'est les cucus, ils aiment. Oh. Nous en France, on est des méchants, on est des bad boys. Mais tu es des bad boys, quand le jour, c'est ce qu'on dit souvent, à la télévision, ou alors pour quand ils embêtent les autres. Mais le jour où les vrais bad boys viennent chez toi, ils débarquent, ils ont un cagoule, ils sont beaucoup moins sympas. Donc au bout d'un moment, aimer les gens, c'est des trucs qui sont assez simples. Sourire aux gens. Il y a un proverbe asiatique, j'ai pas le proverbe en détail, mais ça dit à peu près que quand on sourit, on donne le soleil à l'extérieur, le soleil brille à l'intérieur. Et des fois, ce sont des petits trucs. Moi, je croise des gens en voiture le matin qui sont très énervés et je comprends pas pourquoi. Par contre, je croise des gens des fois qui sourient, un petit geste de la main, mais ça fait un bien incroyable. Et il y a des trucs qui ne coûtent rien et que nous, en vivant en société, on pourrait arriver à changer la société comme ça. L'empathie, la bienveillance.
À la place de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du jugement à outrance. Ça marcherait mieux, je pense.
Alors, vous avez des jeunes collègues là, qui ont beaucoup de succès. Vous avez vu hein, toute cette jeune génération là, qui a rempli Bercy il n'y a pas si longtemps, avec des très grands talents, en tout cas, moi, je trouve. Hein.
Oui.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette jeune génération, des Damso, des Aurel San, des Lampades et tout ça, du bien.
Ils sont très créatifs en tout cas, beaucoup de créativité, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir notre musique aussi répandue, aussi différente, parce que ce sont les trois artistes que vous venez de citer, ce sont trois artistes complètement différents, qui ont des univers complètement différents, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une plume, ils ont une écriture.
C'est les poètes d'aujourd'hui.
Ils ont quelque chose à dire. C'est pas étonnant que ces gens-là aient trouvé leur public et qu'ils remplissent des salles, parce que...
C'est le même public que vous ?
Je pense plus jeune, mais semblable, oui. Semblable. Je pense plus jeune, mais semblable, parce que c'est pour les mêmes choses. C'est pour l'énergie, mais aussi les paroles. Et je pense que comme nous, autant on aime bien secouer les gens physiquement, mais secouer les gens mentalement, c'est bien aussi.
Et il y a 10 000 variantes du rap aussi. C'est-à-dire que le rap est devenu tellement varié que nous, on peut pas avoir un avis d'ensemble sur le rap. Parce que ce que je disais récemment, c'est qu'il génère sa culture et sa propre contre-culture. Donc ici, par exemple, dans notre maison de disques, aujourd'hui, je sais pas, ils pourront vous confirmer ça, mais quasiment entre 70 et 80% de leurs sorties sont affiliées à la musique rap. Donc c'est devenu énorme maintenant pratiquer en France. Et puis on a des artistes qu'on aime beaucoup, d'autres choses qu'on aime beaucoup moins. Mais il y a quand même dans les nouvelles générations des gamines et des gamins qui font des trucs extra, qui font des super morceaux.
Très créatifs.
Voilà. Moi j'écoute principalement du rap américain, c'est pas par snobisme, parce que j'ai grandi dedans. Mais quand j'entends des fois mes enfants écoutent du rap français, il y a des trucs qui sont vraiment bien foutus.
Dernière question, le goût de l'avenir, c'est quoi votre futur ?
Le futur, c'est demain, pour nous. On a du mal à se projeter dans un grand futur. Quand on dit demain, c'est que la mission pour nous, une fois qu'on a promotionné l'album, qu'on finit, donc on fait bien les choses, on répète, on écrit un beau spectacle et on part dans 25 dates, dans des petites salles qui sont quasiment toutes complètes. Mais on a voulu faire des petites salles parce qu'on avait envie d'être au contact des gens. On sort de 2 ans de Zénith, de grandes salles.
Merci, machin, les gens sont loin, les crash barrières sont à 5-6 mètres.
Voilà. Et comme trop de gens ont râlé, à la rentrée octobre ou novembre 2020, on fait aussi des très grandes salles. On fera des festivals, mais on fait des très grandes salles pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket, parce qu'apparemment, et des endroits comme Marseille, Grenoble, Nîmes, dans 5 minutes, il n'y avait plus de place. Mais nous, on a besoin, je pense que les gens ont besoin aussi de voir IAM dans des salles à dimension humaine. Voilà. Ce sont deux spectacles complètement différents. Il n'y aura pas de décor chichi, pam, pam, fan, fan, freluche sur les petites salles.
On vient de là, on a commencé comme ça.
Son, transpiration.
Et on a besoin de. Ouais. Et on a besoin de temps en temps de retourner là-dedans, de se retrousser les manches, de pas avoir de décor, de pas juste un micro, des serviettes posées, les gens en face et voilà. Et leur en mettre plein la vue pendant 1h30, voire 2 heures. Parce qu'on est des artistes, on est là pour en mettre plein la vue.
Bon alors, c'est la fin de l'émission, je vous propose qu'on passe pas notre générique, oui. Mais que ça soit vous qui fassiez.
Le générique de fin, un couplet.
Allez, vas-y.
Yasuke. Comme la tempête, on est venu de loin à l'horizon. Anneaux brisés aux pieds, dragons noirs brodés sur l'oriflamme. Notre destinée était ailleurs, en ces contrées où on fixe le sol, transi par la peur de l'échec, de la mort, du manque d'amour. Et les miettes, à ma porte, c'est le banquet d'un jour. Où l'innocence travaille si dur, au lieu de jouer, avant l'armure, je n'avais que quelques loques trouées sur mon dos. Ma vie suspendue au peu d'eau dans mon seau, sur mon radeau, 200 pharmaons m'entassés par mon seau. Katana forgée dans le bain amer de l'indicible, esclave moderne, la faim entrave invisible. Aujourd'hui, quand on me croise, tout paraît normal. Au loin, la ville dort calme, à l'aube quand je pars au dojo. Mon histoire n'aura jamais les projos, elle se limite à ces jours sombres où les corps se comptent sur les plages. Sur cette rive, combien sont sur les marches comme moi, dans cette mer, combien ne rentrent pas comme toi. Mon ami, mon frère, en paix reste. Avec ton bulletin de notes cousu sur la veste.
Merci infiniment à vous deux.
Merci beaucoup.
All niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
Ooh, not one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy, ass on a healthy young millionaire, what the fuck can you tell me? Smell me, nigga, that's Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cellular phone.
Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages, like get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My trip like a faucet. She told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet.
The opposite, she want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on a runway, dripping in my feng shui, sipping on a Sunday.
One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat.
And all y'all ain't got nothing to
me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
I bought a Montclair coat for the times we're broke.
I'ma wear it in the summer on LeBron James boat.
Front row,
duh, bro.
We don't sit on those bleeds.
Ain't your pockets obese?
They won't fit in those seats.
Hey, we like a co-team.
Nigga Shaq and Kobe.
Like back in 03.
I was only like 6.
I was like 16.
But I can give a 16.
I can make a bitch scream.
That's a bit extreme.
I got a thick ball, bitch. I call her Miss Clean. My drip frosty like Halls and Listerine. And we are all stars. You hardly 6 string.
Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams.
Swear to God. Yeah, me too.
No Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding.
We party in South Beach. Ferraris and blue cheese.
Fuck does that even
nigga,
mean?
Nigga, just let the hook sing. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat.
And all y'all ain't got nothing to
ooh, me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat.
And all y'all ain't got nothing to me.
C'était RNP de YBN Cordée avec Anderson Paak. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Elodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet, et à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission.